Chapitre 35.
En un mois et demi, tu as détrôné le roi. Personne ne pourra dire que tu ne vas pas vite en besogne, Haine.
Les paroles de son père étaient joviales, même s'il paraissait inquiet. Il savait, tout comme elle, que le chaos qui découlerait de la chute de l'autorité politique frapperait les nobles et les paysans. « Je ne l'ai pas fait intentionnellement !» protesta sa reine. « Pardon, mu miséricordieux, j'ai essayé de sauver ce pauvre fou. Il n'aurait jamais dû prendre part au mystère. » Son père gloussa.
« Et je n'aurais jamais dû t'envoyer là-bas. J'aurais dû savoir que tu représenterais un danger pour nos ennemis. »
« Tu ne m'as pas envoyé là-bas, » rétorqua sa reine. « C'était mon idée. »
« Je suis heureux de constater à quel point mon opinion compte aux yeux de ma fille, » dit Eventéo.
Sa reine se radoucit. « Excuse-moi, père, » fit-elle en soupirant. « Je suis à cran depuis. Tu ne peux pas savoir combien ça a été horrible. »«
Oh, mais je le sais, malheureusement. Comment une religion aussi innocente que le Jesker a-t-elle bien pu engendrer une monstruosité comme les mystères ?»
Comme le Chuderet et le Chukorat, à partir de l'enseignement d'un simple petit Jindoé, répliqua sa reine en secouant la tête. Eventéo soupira.
Alors, Yadon est mort?
Comment le sais-tu? S'étonna sa reine.
J'ai envoyé des nouveaux espions en Arelon récemment, N, lui dit son père. Je ne vais pas laisser ma fille seule dans un pays en plein chaos sans garder au moins un œil sur elle.
Qui? Demanda sa reine avec curiosité.
« Tu n'as pas besoin de le savoir, » répondit son père.
« Ils doivent avoir des séones, » murmura la jeune femme. « Sinon, tu ne serais pas au courant pour Yadon. Il ne s'est pendu que la nuit dernière. »«
Je ne te dirai rien, N, » fit Eventéo sur un ton moqueur. « Si tu savais qui me l'a dit, tu l'accaparerais pour tes propres affaires. »«
Très bien, » dit sa reine. « Mais quand tout sera terminé, tu feras mieux de me dire de qui il s'agit. »«
Tu ne le connais pas. »
« Très bien, » répéta sa reine, feignant l'indifférence. Son père rit.
« Parle-moi plutôt d'Yadon. Comment par Domu a-t-il réussi à se procurer une corde ?»«
Mais si Réondel a dû s'en occuper pour lui, » supposa sa reine, en posant les pieds sur son bureau. « Le comte pense en guerrier, et c'était une solution très efficace. Nous n'avons plus besoin de le forcer à abdiquer. Son suicide redonne un peu de dignité à la monarchie. »
« Tu es d'humeur sanguinaire cet après-midi, je me trompe, N ?»
Sa reine trembla. « Tu n'as pas vu ce que j'ai vu, père. Le roi ne s'est pas contenté de tuer cette fille, il y a pris plaisir. »«
Ah !» dit Eventéo. « Mes sources m'ont rapporté que le duc Tellerii allait certainement monter sur le trône. »«
Pas si nous réussissons à l'en empêcher, » dit sa reine. « Tellerii est encore pire que Yadon. » Même s'il n'était pas un sympathisant d'Hérétie, il ferait un très mauvais roi.
N, une guerre civile n'arrangera les affaires de personne.
Les choses n'en arriveront pas là, père, promit sa reine. Ces gens n'ont vraiment pas l'esprit militariste. Ils ont vécu durant des siècles sous la protection élantrienne. Ils s'imaginent que la présence de quelques gardes rondouillards sur le mur d'enceinte de la ville suffit à dissuader toute tentative d'invasion. La seule troupe armée digne de ce nom est la Légion de Messire Eondel. Pour l'heure, elle se trouve à Caë. Nous parviendrons peut-être à faire monter Royal sur le trône avant que quelqu'un d'autre ne prenne les devants.
Tu t'es rallié à lui, alors?
Lui seul possède la fortune nécessaire pour défier Tellerii, expliqua sa reine. Je n'ai pas assez de temps devant moi pour enrayer le système imbécile de Yadon à cause duquel la couronne se monnaie. Les gens y sont habitués. Aussi allons-nous devoir faire avec, pour le moment. On frappa à la porte et une servante entra avec le plateau du déjeuner. Sa reine était retournée vivre au palais. Elle n'avait passé qu'une seule nuit dans le manoir de Royal, et ce malgré les recommandations de ses alliés. Le palais était un symbole. Elle espérait, en y revenant, que le lieu lui conférerait de l'autorité. La servante posa le plateau sur la table et ressortit.
« Est-ce que c'est ton déjeuner ?»
Son père semblait avoir un sixième sens dès qu'il s'agissait de nourriture. « Oui, » répondit sa reine, en se coupant une tranche de pain aux céréales.
« La nourriture a l'air appétissante. »
Sa reine sourit. « Tu ne devrais pas me poser ce genre de questions, père. Mes réponses te feraient du mal. » Eventéo soupira.
« Je sais. Ta mère a une nouvelle lubie, la soupe aux herbes ragoises.
Et c'est bon ? Demanda sa reine. Sa mère était la fille d'un diplomate Tewa. Elle avait passé la majorité de son enfance en Jindo et avait conservé de son séjour des goûts alimentaires pour les moins douteux, qu'elle imposait à tous, au palais comme à son entourage.
Répugnant.
Tu m'en vois désolée, dit sa reine. Mais où ai-je donc posé ce fichu beurre ? Son père poussa un gémissement. Père, gronda la princesse. Tu sais que tu dois perdre du poids. Même si le roi n'était pas aussi impressionnant en muscles ou en graisse que son frère Kiin, il restait néanmoins corpulent.
« Je ne vois pas pourquoi, » répondit Eventeo. « Est-ce que tu savais qu'en Duladel, le poids est un critère de beauté ? Il se fiche des recommandations jindoaises et se porte très bien sans faire de diète. Et depuis quand le beurre fait-il grossir ?»«
Tu sais ce que les jindoais ont coutume de dire, père, » répondit sa reine. « Tout ce qui brûle est mauvais pour la santé. » Eventeo soupira. «
Je n'ai pas bu une seule coupe de vin depuis 10 ans. »«
Je sais bien, père. Je vivais sous ton toit autrefois, tu t'en souviens ?»«
Oui, mais ta mère ne t'a jamais empêché de boire de l'alcool. »«
Je ne suis pas en surpoids, » fit remarquer sa reine. « L'alcool brûle. »«
La soupe d'herbe ragoise aussi, »
répliqua-t-il d'une voix devenue espiègle.
« Disons qu'elle brûle si on la déshydrate. J'ai essayé. »
Sa reine éclata de rire. Je doute que maman ait beaucoup apprécié cette petite expérience.
Elle m'a juste lancé un de ses regards. Tu sais comment elle est.
Oui, dit sa reine, se remémorant les attitudes de sa mère. La princesse avait passé bien trop de temps en mission diplomatique ces dernières années pour souffrir à présent du mal du pays. Mais elle aurait rêvé de retourner en Théode. Elle y avait particulièrement pensé au cours de ces dernières semaines.
Bien, N, je dois aller rendre la justice. Finit par dire Eventeo. Je suis heureux de voir que tu sollicites ton vieux père de temps à autre, surtout pour lui apprendre que tu as mis une nation tout entière sans dessus-dessous. Oh, une dernière chose. Dès que j'ai eu vent du suicide de Yadon, j'ai aussitôt dépêché un de mes bateaux les plus rapides pour l'Arelon. Seynalan se trouve à son bord. Il devrait être en vue dans quelques jours.
Seynalan ? Demanda sa reine, visiblement surprise. Qu'est-ce que le patriarche a à voir avec toute cette histoire ?
Je ne sais pas, il n'a rien voulu me dire. Il faut vraiment que j'y aille, N. Je t'aime.
Je t'aime aussi, père.
Je n'ai jamais rencontré le patriarche,
confessa Royal qui se trouvait dans la salle à manger de Kiin.
Est-ce qu'il ressemble au père Omune ?
Non, répondit sèchement sa reine. Seynalan n'est qu'un égocentrique entièrement dédié à sa carrière, un orgueilleux à côté de qui un Giorn d'Ereti paraît humble.
Princesse ! S'écria Eondel avec indignation. « Vous parlez du patriarche de notre église !»«
Ce qui ne m'oblige pas à l'aimer pour autant, » répondit sa reine. Eondel, pâle comme un linge, cherchait des mains l'Aon Omu pendu autour de son cou. Sa reine se renfrogna.
« Vous n'avez pas besoin de conjurer le diable, Eondel. Je ne vais pas renier d'Omu parce qu'il a placé un imbécile à la tête de son église. Même les idiots peuvent se rendre utiles. »
Eondel baissa les yeux et se mit à contempler ses mains. Puis, il regarda la jeune femme avec une expression gênée. Royal, quant à lui, riait sous cape.
« Quoi ?»
demanda la princesse.
« J'étais juste en train de me dire la chose suivante, sa reine, » dit le vieil homme en souriant. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, homme ou femme, d'aussi entêté que vous. »«
C'est que la vie vous a largement épargné, monsieur le duc, » commenta sa reine. « Mais où est Lucel ?» La salle à manger de Kiin n'était pas aussi confortable que le bureau de Royal, mais pour une raison indéfinissable, tous se sentaient plus à l'aise dans cette pièce. À l'inverse des gens qui aiment décorer leur bureau ou leur salle de réception afin de les rendre plus personnels, tout l'intérêt de Kiin allait à la nourriture, la salle à manger étant la pièce où il aimait partager son talent. Les quelques objets qui décoraient l'endroit, des souvenirs de voyage, dont des aromates déshydratés et une immense hache ouvragée, leur était agréablement familier. Ils n'avaient jamais ressenti le besoin d'en parler. Tous étaient entrés pour la première fois dans cette pièce comme s'ils la connaissaient depuis toujours. Ils attendirent Lucel encore un moment. Ils finirent par entendre la porte s'ouvrir et se refermer, puis le visage charmant de leur cousin apparut dans l'encadrement de la porte. Ahan et Kiin se trouvaient avec lui. « Alors ?» demanda sa reine.
« Tellri a bien l'intention de s'emparer de la couronne. »
dit Lukel.
Il n'y arrivera pas, pas si ma légion soutient Royal,
affirma Eondel.
Malheureusement, mon cher général,
intervint Ahan en calant son imposante corpulence sur une chaise, votre légion n'est pas là.
Vous avez à peine une douzaine d'hommes à votre disposition.
C'est plus que Telri n'en dispose, fit remarquer sa reine.
Plus maintenant, n'est-ce pas?
Intervint Ahan.
La garde d'Elantris a quitté son poste et monté un campement dans le parc du manoir de Telri.
Eondel grogna.
Cette garde n'est rien qu'un club pour fils de bonne famille qui cherche à se faire remarquer.
C'est vrai, dit Ahan.
Mais ce club compte plus de 600 membres. À 50 contre 1, même moi je me battrais contre votre légion. J'ai bien peur que la chance n'ait tourné en faveur de Telri.
C'est mauvais, accorda Royal. La fortune de Telri posait déjà problème, mais maintenant...
Il existe forcément un moyen, dit Lukel.
Je n'en vois pas,
confessa Royal. Les hommes, perdus dans leurs pensées, semblaient tous préoccupés. Cela faisait pourtant 2 jours qu'ils tournaient et retournaient ce problème dans tous les sens. Même s'ils avaient l'appui des militaires, les autres aristocrates hésiteraient à soutenir Royal parce qu'il était le moins riche des 2 candidats. Comme sa reine étudiait tour à tour ses compagnons attablés, ses yeux s'arrêtèrent sur Shuden. Il ne semblait pas inquiet, mais hésitant. « Quoi ?» demanda sa reine à voix basse.
« J'ai bien une idée, » fit-il avec hésitation. « Exprimez-vous, monsieur, » dit Ahan.
« Eh bien, sa reine est encore très riche, » expliqua Shuden. « Raoden lui a laissé au moins 500 000 déo.
Nous avons déjà parlé de cela, Shuden, » dit Lukel. « Elle a beaucoup d'argent, mais moins que Royal. »
« C'est exact, » accorda Shuden. « Mais ensemble, ils en auraient beaucoup plus que Telri. »
Le silence retomba sur la pièce.
« Votre contrat de mariage est légalement nul, madame, » dit Haché qui se trouvait derrière elle. « Il est devenu caduc lorsque Yadon s'est suicidé. Son geste empêche tout membre de sa lignée de lui succéder. À l'instant même où quelqu'un d'autre deviendra roi, qu'il s'agisse de Telri ou de Royal, le contrat prendra fin et vous cesserez d'être une princesse aréloise. »
Shuden hocha la tête en signe d'approbation.
Si vous cumuliez vos fortunes, Messire Royal et vous-même auriez l'argent nécessaire pour combattre Telri. Cela donnerait d'autant plus de poids à la revendication du duc. Le lignage représente encore quelque chose en Arelon. Les nobles préféreront toujours donner leur soutien à un membre de la famille de Yadon.
Royal la regarda avec l'expression d'un grand-père bienveillant.
« Je dois reconnaître que le jeune Shuden marque un point. Ce mariage serait purement politique, sa reine. »
Sa reine respira profondément. Les choses allaient trop vite. « Je comprends, monseigneur. Nous nous plierons aux exigences de la situation. » Et ainsi, pour la seconde fois en 2 mois, sa reine se retrouva fiancée.
« Ce n'était pas très romantique, j'en ai peur, »
s'excusa Royal. La réunion était terminée, et le vieil homme avait discrètement proposé à sa reine de la raccompagner au palais. Les autres, dont Haché, les avaient laissés afin qu'ils puissent se parler en privé. « Tout va bien, monseigneur, » dit sa reine, en esquissant un sourire. « Nous parlons de faire un mariage politique, raisonnable, organisé, mais extrêmement utile. »«
Vous êtes très pragmatique. »«
Il le faut bien, monseigneur. » Royal fronça les sourcils.
Vous me donnez du monseigneur, sa reine. Je croyais que nous avions dépassé ce stade.
Je suis désolée, Royal, dit sa reine. Il m'est difficile de séparer le politique de l'intime. Royal le lui confirma d'un hochement de tête.
Je pensais sincèrement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit que d'une union de convenance. Nos obligations l'un vis-à-vis de l'autre s'arrêtent là.
Sa reine continua de chevaucher tranquillement au rythme de l'animal qui la précédait. « Il faudra des héritiers. » Royal sourit.
« Non, sa reine. Merci bien, mais ce ne sera pas nécessaire. Même si c'était physiquement possible, je ne pourrais pas assumer une telle situation. Je suis un vieux monsieur, il ne me reste que quelques années à vivre. Et cette fois, votre contrat de mariage vous donnera le droit de vous remarier après ma mort. » Quand je ne serai plus, vous pourrez choisir l'homme qui vous plaira. D'ici là, nous aurons réussi à remplacer le régime insensé de Yadon par un autre plus stable. Ainsi, les enfants que vous aurez avec votre troisième époux pourront hériter du trône. »
Troisième époux. Royal venait de parler comme s'il était déjà mort, et sa reine veuve une seconde fois. « Bien, » dit-elle. « Si les choses devaient se passer ainsi, je n'aurais aucun mal à séduire un mari. Le trône fera un très bon appât, même s'il faudra me prendre avec. » Le visage de Royal se durcit.
« Cela fait longtemps que je souhaite vous faire part du constat suivant, sa reine. »«
Quoi donc ?»«
Vous êtes trop dur avec vous-même. Je vous ai entendu parler. Vous pensez que personne ne veut de vous. »«
C'est la réalité, » fit sa reine, catégorique. « Croyez-moi. » Royal secoua la tête.
« Vous cernez généralement très bien les gens, sa reine. Sauf vous-même. Souvent, nous nous trompons sur nous-mêmes. Vous vous voyez comme une vieille fille, mon enfant, mais vous êtes jeune et vous êtes belle. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de chance par le passé que vous ne devez pas croire en l'avenir. »
Il la regarda au fond des yeux. En plus d'être malicieux, cet homme avait du discernement.
« Vous trouverez quelqu'un à aimer, sa reine, » promit Royal. « Vous êtes une récompense plus grande encore que le trône auquel vous serez lié. »
Sa reine rougit et baissa les yeux. Pourtant, ses paroles lui apportaient du réconfort. Avait-elle vraiment raison d'espérer? Elle aurait probablement 30 ans passés, un âge qui lui laissait encore une chance de trouver le bon compagnon.
« De toute façon, » dit Royal, « nous devons bientôt nous marier si nous voulons battre Tellry. »
« Quelle date suggérez-vous ? »
« Le jour des funérailles de Yadon, » répondit Royal. « D'un point de vue légal, son règne ne prendra fin que le jour de son enterrement. »
4 jours. Les fiançailles seraient de courte durée.
« Cela m'inquiète de vous savoir mêlé à tout ça, » reprit-il. « La perspective d'épouser un vieil homme poussiéreux n'est pas très engageante. »
Sa reine posa la main sur celle du duc. « Tout bien considéré, monseigneur, je trouve au contraire que j'ai plutôt de la chance. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ce monde que je serais heureuse d'épouser par obligation. » Royal, les yeux brillants, sourit avec espièglerie.
« Dommage qu'Anne soit déjà mariée, vous ne trouvez pas ?»
Sa reine retira sa main et lui donna un coup sur l'épaule. « J'ai eu assez d'émotions pour cette semaine, Royal. Je vous serais reconnaissante de ne pas me donner la nausée par-dessus le marché. » Le duc éclata de rire. Lorsque son hilarité fut retombée, ils entendirent des bruits étranges, des cris. Sa reine se figea. Ses hurlements n'étaient pas des signes de douleur ou de colère. Il semblait joyeux et excité. Troublée, la jeune femme regarda par la fenêtre de la voiture et vit une foule de gens qui convergeaient tous vers le carrefour.
« Pardonne-moi, mais que se passe-t-il ? » demanda Royal.
Sa reine parut soudain totalement abasourdie. « Mais c'est impossible !»«
Quoi donc ?»
fit Royal en regardant rapidement au dehors. « C'est Rathen !» répondit sa reine, les yeux écarquillés. « Il n'est pas à Elantris !» Puis, elle se rendit compte d'autre chose. Le visage du Gyorn était lisse, bien portant. « Domnu tout-puissant, il a l'air guéri !»